La première, podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Quand un pauvre vole un riche, ça s'appelle un délit. Quand les riches volent les pauvres, ça s'appelle un système économique. C'est signé Philippe Geluck, invité exceptionnel de notre émission ce dimanche. Bonjour Philippe.
Bonjour Adrien, c'est formidable. Depuis Yunnan, je vous entends très très bien. La liaison est excellente.
Aussi excellente que le Belge du bout du monde chez qui nous débarquons dans l'Empire du Milieu. Bonjour Patrick Neys.
Bonjour Adrien, bonjour Philippe, très bonjour. Heureux de vous avoir.
Bonjour Excellence.
Oui, parce que Philippe, attention.
C'est un évêque, vous ne m'avez pas dit, c'est un évêque.
Non, c'est un ambassadeur.
Ah voilà, donc j'ai bien dit Excellence.
Un ambassadeur retraité,
honoraire,
reconverti en permaculteur dans le Yunnan, sur les contreforts de l'Himalaya. Pouvez-vous nous préciser, Patrick, où vous vous trouvez pour l'instant?
On se trouve dans un petit village qui s'appelle Lao Chuandi, qui est un village de 200 habitants. Vous voyez, il y a aussi des endroits en Chine qui ne sont pas surpeuplés, comme Shanghai et Pékin. Nous sommes à 2h30 de route de la ville de Kunming, vers le nord. Nous sommes en pleine montagne, à 2100 mètres d'altitude. Nous sommes dans une ferme très isolée, une ferme de 2 hectares.
Moi, je vais vous faire rêver. Je viens d'Ixelles et je me trouve actuellement boulevard Reyes, dans cet admirable bâtiment des années 70, hein, qui s'appelle la cité de la RTBF. Voilà, ça va devenir la cité interdite quand elle va commencer à s'écrouler, mais c'est un endroit assez magique.
C'est ici que vous cultivez votre lopin de terre, hein, Philippe Geluck.
Oui, attends, mais que avec des pensées bio.
Je rêve, là.
Oui, Patrick, c'est dans le Yunnan, au terme d'un parcours incroyable qui vous amenait de Bruxelles, justement, à Osaka, en passant par Shanghai et Bujumbura. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette trajectoire, Philippe, de notre ambassadeur?
Alors moi qui suis un sédentaire absolu, je suis un ours qui vit au fond de sa tanière. Ma tanière est dans mon atelier, qui se trouve 2 étages en dessous de mon domicile. J'ai très 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 peu voyagé, mais j'ai peut-être fait comme Hergé, qui a dessiné le monde mieux que quiconque sans l'avoir parcouru. Donc je rêve, j'écoute, je lis, j'entends, je regarde, et tout ça de chez moi.
Comme Jules Verne aussi.
Oui, voilà, tous les grands visionnaires.
Patrick, vous êtes amoureux de la Chine éternelle, vous pratiquez quotidiennement la méditation comme moyen de vous connecter à vous-même et à l'univers. Vous êtes aussi féru de taoïsme. Vous vous êtes plongé dans le dernier essai de Philippe Geluck, Les mots du chat. Qu'en retenez-vous, Patrick?
Il y a des choses qui sont proches du taoïsme. J'ai repéré une phrase qui pourrait figurer d'ailleurs dans le Tao Te Ching, c'est « Parfois faire ne sert à rien et ne rien faire sert ». Vous ne pouvez pas être plus taoïste.
Ah, c'est drôle. Quelqu'un m'a dit ça récemment.
Vous ne pouvez pas être plus taoïste que ça.
Quelqu'un m'a dit ça récemment à propos d'un dessin que je viens de faire. Et c'est le chat qui dit « Si tu ne vois pas l'oiseau, tu peux penser que c'est l'arbre qui chante ». Donc je fais du taoïsme sans, comme Monsieur Jourdain, sans avoir conscience que j'en fais.
Vous êtes plus proche de Confucius,
on en
parlera tout à l'heure. Avec nous aussi Anne Pollard. Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré pour nous un autre dessinateur passionné par la Chine et les grands travaux ferroviaires réalisés sur place par les petits Belges.
Oui, tout à fait. Il s'appelle François Skuyten. Il a publié effectivement un livre doublé de l'exposition Train World qui s'est fini ici il y a quelques jours. Et en fait, cette exposition et ce livre, ils retracent l'histoire vraiment de l'ingénierie belge en Chine pour construire un chemin de fer.
À découvrir dans une vingtaine de minutes sur la première. Ne bougez pas, nous allons aussi vous distiller quelques proverbes chinois.
Chez les poissons chinois, il y a un proverbe qui dit « Si tu passes à côté de l'hameçon une fois, tu vivras un jour. Si tu apprends à éviter les hameçons, tu vivras toute ta vie.
» Les proverbes chinois de Philippe Geluck, avec un peu l'accent chinois, vous le dites
Oui, très très léger.
Oui, très très léger. J'en ai noté un autre, s'il pleut le jour de ton anniversaire, ça t'évitera de souffler des bougies. Ou alors celui de Confucius, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt.
Le chat avait ajouté à Confucius, mais n'empêche qu'un beau doigt comme ça, ça vaut le coup de le regarder.
Allez, nous, on regarde le parcours incroyable de Patrick Neyss, notre Belge du bout du monde en Chine. Belge pur jus, Patrick, parce que vous êtes génétiquement flamand, mais culturellement francophone. Un petit peu des deux, quoi. Et né au Congo, en plus. Donc, vous êtes, vous êtes un Belge du bout du monde.
J'ai trouvé dans le Yunnan une convergence assez merveilleuse entre l'Afrique et la Chine. Le Yunnan est au sud de la Chine, c'est une Chine, vous savez, la Chine est loin d'être homogène, et cette Chine-ci, c'est une Chine de minorités, donc il y a 28 minorités au Yunnan, et puis il y a cette terre rouge, il y a ce côté non encore trop bouffé par l'hyperdéveloppement, et donc tout ça, c'est une bonne synthèse pour moi entre l'Afrique de mon enfance et la Chine de mon âge adulte, cette Chine qui est tellement profonde et tellement cultivée, qui ici trouve des racines naturelles. Donc voilà, le Yunnan était un peu une prédestination pour moi. Et je m'y trouve très très heureux, très épanoui.
Ah, on sent la sérénité dans la voix, en tout cas. Vous avez vécu un petit peu partout aussi chez nous en Belgique, à Bruxelles, à Namur, dans le Brabant wallon. Vous avez travaillé pendant 10 ans à l'UCL. Vous avez fait votre service militaire chez les commandos de Flawin, ça ne rigole pas. Et vous avez été prof de religion à Namur. Vous avez donc été un petit peu partout. Numéro 2 à Bujumbura, aussi à l'ambassade. Consul général à Osaka et à Shanghai. Ambassadeur en Chine à partir de 2013. Et là, à la retraite, mais vous n'arrêtez pas de travailler. En fait, maintenant, vous travaillez au champ, monsieur l'ambassadeur.
Oui, je passe le plus clair de mon temps à pratiquer, apprendre et développer la permaculture, faire en sorte qu'elle se propage. Je pense qu'on est arrivé à un moment, et c'est ma génération qui en porte sans doute la plus grande responsabilité. On est arrivé à un moment où si on ne fait pas ce genre de renversement, eh bien, nous allons disparaître. Et ce n'est pas nous qui allons disparaître, mais nos enfants sans doute, et dans des conditions qui sont déchirantes, barbares peut-être même. Donc, développer la permaculture est quelque chose qui est fondamental pour moi. Et donc, j'essaye de faire ça. Il faudrait sans doute arriver à ce que les politiques agricoles finance le service écologique, quoi. Je pense qu'on y arrivera, mais ça mettra du temps. Mais en attendant, il faut s'y mettre.
Parole de sage, hein, Philippe.
Ah oui, je vous écoute passionnément parce que je voudrais revenir sur deux choses que vous avez dites. Nous sommes à peu près de la même génération. Et donc, quand vous dites c'est notre génération qui porte la responsabilité de cet état de choses, j'apporterai une nuance. Je pense que ce sont plutôt les hypercapitalistes, les grands industriels et les gouvernements qui ont agi de façon irresponsable, mais qui comportaient des gens de notre génération. Parce que moi, je suis depuis l'âge de 16-18 ans passionné par le discours de René Dumont, grand écologiste français que vous connaissez évidemment, et qui nous a alertés fin des années 60 sur tous les dangers qui voient leur résolution aujourd'hui. Et il est encore temps d'essayer de nous racheter un peu pour tout le mal que nous avons fait. Vous le faites de cette manière magnifique. J'essaie de le faire à ma façon en ayant d'abord un comportement qui soit respectueux et des autres et de l'environnement, en consommant des produits de proximité, en consommant, et j'ai les moyens de le faire, des produits bio plutôt que des produits bourrés de pesticides, etc., etc. Mais c'est surtout le travail que j'essaye de faire est un travail de transmission, d'éducation, d'avertissement. Je le fais à travers mon métier, je fais des dessins, sur l'écologie. Je dois essayer de rester drôle et de ne jamais devenir donneur de leçons.
Pas trop moralisateur.
Parce que sinon, on va me tourner le dos, on va dire « ça va,
et ça passera
pépère
pas »,
etc. Donc, il faut continuer à le faire avec des gags, avec légèreté, et puis de se rendre compte que je pense que le grand bouleversement qui doit se passer, c'est un bouleversement politique. Parce que Dieu sait si une attitude vertueuse est positive et nécessaire, mais ce n'est pas parce que vous, lui, moi et elle irons chercher notre pain à pied à la boulangerie plutôt que d'y aller en bagnole, que ça va arranger les choses. Alors, il faut continuer de le faire, mais il faut surtout être prosélyte et convaincre la majorité. Mais on est beaucoup, 8 milliards, ça va faire beaucoup de personnes à convaincre.
Mais on exécute à Glasgow aujourd'hui pour la COP26, donc c'est très bien. Merci beaucoup, ne bougez pas. On va continuer en musique avec Yang Lina. C'est une chanteuse chinoise dont le style allie à merveille la légèreté traditionnelle, les mélodies centenaires et les paroles modernes. Tendez l'oreille.
chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Ting Ivan Sheng Sheng de Yong Lina, c'est un morceau parfait pour la méditation, à défaut de l'être par sa prononciation, et je vous remercie pour votre indulgence.
Non mais on imagine là-bas tout le village qui est autour de votre correspondant et qui se roule par terre de rire.
Nous sommes ce matin au sud des nuages, dans la province du Yunnan, où Patrick Nice, ex-ambassadeur de Chine, est devenu fermier. Pour dialoguer avec lui, Philippe Geluc, qui dessine le chat à l'encre de Chine, évidemment.
Ah bien entendu, pas une autre. J'ai essayé l'encre... Non, il n'y a que celle-là qui est bien.
La Chine, pays du vélo. Vous l'utilisez dans votre ferme, Patrick, le vélo, pour aller peut-être dans vos plantations ?
Non, c'est beaucoup trop raide pour moi.
C'est trop vallonné par là, hein, il me semblait bien.
Ah oui, non,
vous êtes à 2000.
Vous êtes vallonné, je vous jure que...
Mètre d'altitude.
C'est le Mont Blanc.
Hein. Oui. Le vélo, attention, source d'inspiration pour Philippe Geluc et Cathy Mélua.
It's a fact, it's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die.
Le vélo d'appartement est formidable quand on ne sait pas où aller, mais qu'on veut y aller quand même.
Il n'y a point de chemin vers le bonheur, ben le bonheur c'est le chemin, disait Lao Tzu, contemporain de Confucius et père fondateur du taoïsme. Ah Philippe, vous m'avez rappelé aussi que le vélo est l'anagramme de love, hein, il y a love dans vélo.
Absolument, ouais. Qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre. Yes. Et de même voler aussi, un vélo volé, c'est pas une preuve de love.
Ah oui, au contraire.
Ah oui.
Au contraire. Patrick, vous avez les pieds sur terre et vous savez très bien où vous vous trouvez, vous vivez à... Loa Chundi, un tout petit village de...
Lao Chundi.
D'accord,
oui.
Comme
Lao
vous dites, un petit village de 300 habitants dans la montagne au nord de Kunming, la capitale de la province du Yunnan en Chine.
Non mais je vais vous mettre à l'aise, Adrien. Demandez à un Chinois de là-bas de prononcer Oufalise. Il ne va pas y arriver non plus. Hein.
Ou Tsiplou aussi, oui, c'est voilà. Compliqué. C'est une terre abîmée par des années de pollution chimique et plastique. Et là, ben, vous faites beaucoup de bien à la terre. Vous avez acquis un terrain de 2 hectares fin 2012 avec Mignane, votre compagne qui est originaire de la région. Patrick ?
Oui, bien sûr. Sans elle, je ne pourrais pas. C'est elle qui a les racines ici. Mon chinois n'est pas... C'est un chinois de cuisine. Mignane traduit mon chinois en chinois. En fait.
D'accord. Et quand vous lui demandez de préparer quelque chose à manger, vous lui donnez le numéro, comme dans les restaurants chinois. Fais-moi un peu de 12 ou du 37.
Non. Vous savez, quand on vit ensemble, on a des codes. Hein, et
voilà.
On a notre langage à nous.
Alors Patrick, vous travaillez de vos mains, vous êtes permaculteur. Vous avez retapé la maison aussi, une petite bâtisse avec des murs en parpaing. Il n'y avait rien du tout. Vous avez tout construit. Vous avez amené l'eau, l'électricité. Là, vous êtes installé de façon permanente depuis 6 ans dans cette ferme. Mais pour faire bouillir la marmite, vous devez travailler à l'extérieur comme consultant, hein, parce que vous avez des tas de réseaux grâce à votre carrière d'ambassadeur. Et ça permet de financer votre ferme, Kabissa, c'est ça ?
Oui, exactement. Mmh. Oui. C'est bon d'avoir construit ce réseau et de me retrouver où je me retrouve, parce que ce réseau sert aussi énormément pour à la fois me faire entendre. Si vous voulez, les gens m'écoutent parce que j'ai ce passé, j'ai tout cet acquis derrière moi, donc les gens m'écoutent et aussi pour faire bouillir la marmite, tout simplement.
Bien sûr. Bah, Philippe, vous aussi, grand réseau, évidemment, en quelques dizaines d'années de carrière. Mmh. Le chat, vous aimez donner dans vos livres du sourire. Vous dites que le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres. Vous le faites à travers vos livres.
Oui, c'est le chat. J'ai fait dire ça au chat,
ouais.
Parce que j'avais trop de pudeur pour le dire moi-même.
Ouais.
Mais quand vous dites réseau, moi, je n'ai pas de réseau. Hein. Je connais... Non, mais sérieusement, je ne suis pas introduit auprès des gens importants, etc. Je suis comme un gamin dans ce métier. Alors forcément, je connais pas mal de monde. Je travaille avec le même éditeur depuis toujours. Mais je ne suis pas quelqu'un de
le
réseau.
Le même éditeur, la même femme. Enfin, vous êtes quelqu'un de fidèle.
Oui, absolument. Absolument.
Ouais. Mais c'est bien. Mais vous avez un public.
Oui, voilà. Si on entend réseau
ça,
de cette façon-là.
C'est très important, surtout par rapport à ce que vous disiez précédemment. Je veux dire, il faut faire entendre ce message de sauf qui peut, quoi, je veux dire.
Je peux être un porte-voix. et je le fais chaque fois que je peux pour soutenir des actions solidaires, des actions sociales, des actions fraternelles.
Ouais. Alors, chouette, ouais, c'est bien.
Porte-voix, artiste, homme d'affaires aussi, vous créez de l'emploi, vous l'assumez. Pourtant, vous avez grandi dans une famille modeste, de militants, ouais. Je crois très...
communiste,
oui, ouais, 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 tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes.
Grande chance.
Oui, oui, oui. Et ben, vous l'assumez, ça.
Mais c'est-à-dire que je ne me retrouve pas dans le terme homme d'affaires.
Ouais.
Parce qu'un homme d'affaires, il monte une boîte, il fait travailler des gens pour créer du profit. Et ce n'est pas du tout mon but, ni le chemin que j'ai emprunté. En revanche, je suis un entrepreneur. C'est-à-dire que je lance des projets un peu fous, et notamment celui des sculptures monumentales qui ont été exposées à Paris, puis à Bordeaux et maintenant à Caen, et qui vont continuer à travers quelques pays et peut-être quelques continents. Mais c'est un projet que j'ai lancé pour financer le futur musée du chat et du dessin d'humour qui verra le jour en 2024-2025 à Bruxelles. Et donc, bien sûr, ce projet doit générer de l'argent. Mais cet argent sert d'abord à créer une cagnotte pour le musée et puis à rémunérer 45 personnes qui ont travaillé sur la fabrication, le transport, tout ça. Et là-dessus, ben, personnellement, moi, je prends 0 centime. Donc, vous voyez, ce qu'un homme d'affaires, comme vous disiez, ne fait pas. L'homme D'accord. d'affaires, il va capitaliser pour lui et pour sa société. Mais ici, si vous voulez, c'est au service d'un projet culturel.
Voilà, le père spirituel du chat. Et à propos, ben, vous en parlez dans les mots du chat.
Un père spirituel n'est pas forcément un papa rigolo.
Bravo papa, parce que c'est Denis le papa, enfin le vôtre, qui vous a donné l'envie d'écrire, de dessiner à vous et à votre frère.
Ah bien sûr, non mais on peut avoir un... je dis il n'est pas forcément. On peut avoir un père spirituel qui est une espèce de grand penseur un peu austère, qui rigole jamais. Et puis on peut aussi avoir comme père spirituel un papa qui est rigolo. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux.
Et d'être aussi, vous, un papa.
Ah oui, rigolo, et d'avoir un fils et une fille rigolo. Voilà, on aime rire dans la famille.
D'accord. Dans la famille Nice aussi, elle est éparpillée, j'imagine, aux quatre coins de la planète, Patrick, parce que vous êtes en Chine. Où sont vos enfants et vos petits-enfants?
Mes enfants sont en Europe. C'est une grande partie à Louvain-la-Neuve-Havre. Puis j'ai un fils qui habite en Bavière. J'ai une fille qui habite en Écosse. Et j'ai un fils qui habite à Bruxelles.
D'accord.
Ça, c'est les officiels.
Excellent. Il est en grande forme. Philippe Gluck, ne bougez pas. Après la pause, rencontre avec François Skuyten, auteur du livre Pékin, un coup.
9h-10h.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Avec Adrien Jouvenot.
Merci de nous suivre en Chine ce matin avec Philippe Gueluc, les mots du chat sous le bras et ses proverbes chinois. Il y en a un qui dit « quand on est mouche, on a souvent des amis dans le besoin ». Avec nous aussi, et il n'est pas dans le besoin, Patrick Neiss, ex-ambassadeur, devenu fermier dans le Yunnan. Ça fait 10 ans que vous vivez là-bas, Patrick. Quelles ont été vos premières impressions en arrivant sur place ?
Ben, je cherchais un emplacement dans le Yunnan et quand je suis arrivé ici, c'était un petit chemin de terre, même pas une espèce de sentier, si vous voulez, au bout duquel il y avait cette baraque. Mais j'ai su que c'était là. Il faut suivre son cœur. J'ai dit à Mignène, voilà, je veux terminer ici. Elle m'a regardé, elle a dit, t'es complètement fou. Je dis oui, je suis complètement fou, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai eu la chance qu'elle est rentrée dans ce rêve, si vous voulez, dans cette folie qui n'en est pas une, puisqu'on la réalise. Mais donc voilà, je pense que la vie est faite de ce genre de rencontres. Il n'y a rien qui arrive vraiment par hasard. Vous savez, si on ouvre ses sens et son cœur, on trouve toujours une réponse. Et ici, je l'avais, je l'ai su tout de suite. C'était une évidence pour moi.
Mais vous me faites penser à ce sage qui... s'assied sur le haut d'une montagne et qui médite en observant le paysage. Je suis très admiratif de cette démarche et en même temps, moi, je ne pourrais jamais m'y résoudre. J'ai tellement besoin d'être proche de mes enfants, de mes petits-enfants, de les voir souvent que je ne pourrais pas imaginer d'aller passer la prochaine partie de ma vie dans un endroit qui soit loin de tout, de la famille, des amis, mais en même temps, grand respect parce que je vous sens très serein et très heureux.
Oui, ambassadeur, j'ai envie de dire jardinier et philosophe. Patrick Neiss.
Il y a un proverbe chinois qui dit « C'est dans les vieux wok qu'on fait les meilleurs 26, 29 et 37.
Et en Chine, on mange tout ce qui a deux ailes, sauf les avions, et tout ce qui a quatre pattes, sauf les tables. C'est dangereux pour le chat, ça, Philippe. Vous ne l'avez jamais emmené en Chine, le chat? Il passerait à la casserole.
Non, sauf qu'il est...
Je me suis posé la question, oui.
Si, si, il y est allé tout seul. Ah. Il est édité en chinois. J'ai trois livres édités en chinois dont je ne peux pas vous donner le titre.
Il y a tellement de jeux de mots, comment est-ce qu'ils arrivent à traduire ça?
Alors, simplement parce que dans les éditions étrangères, je supprime de mes livres tout ce qui est jeu sur les mots. Et on ne garde que, si vous voulez, les dessins qui comportent une idée et qui, elle, est toujours traduisible.
Voilà.
Alors, à propos de cuisine, quels sont les petits plats, Patrick, que vous concoctez pour votre compagne Mignane, là-bas dans le Yunnan?
Ah non, Adrien, Seigneur, moi je fais jamais la cuisine.
Ah. Alors vous cultivez des arbres fruitiers quand même, des légumes, des céréales, des plantes médicinales, tout ça.
Ne le dites à personne.
Non, ça restera entre nous. Ça restera entre nous.
Mais c'est honteux. Si, dénonçons-le. Moi, je cuisine pour ma femme, mes enfants, pour les amis. Je vous ai précédé dans l'art du potager parce que quand j'avais entre 25 et 35 ans, je faisais mon potager, deux arts de potager. Ah oui, avec pas un gramme d'engrais, etc. Alors ça s'appelait pas permaculture. Et je cuisinais, alors quel bonheur.
Et aujourd'hui, Philippe, vous avez des potes âgés.
Oh, elle est bonne.
Je vais quand même corriger. Vous savez, on va avoir la COP 15 avant Glasgow ici pour animer tous les processus de protection de la biodiversité. Et la Chine a voulu que ça se passe à Kunming, parce que Kunming est la capitale de la province de la biodiversité et de la diversité en général en Chine, d'ailleurs. C'est ce qui rend cette province particulièrement attachante.
Ouais. Comme Philippe Geluc, vous aviez un potager bio dans les années 80. Vous, Patrick, c'était à Cours-Saint-Étienne. Et depuis, vous êtes lancé dans la transition écologique, indispensable pour contribuer au développement durable de votre région d'adoption. Vous voulez aussi en faire un centre international où des paysans des quatre coins de la planète viendraient reprendre des fermes. Est-ce qu'il reste des fermes abandonnées là-bas dans le Yunnan?
Mais donc, nous sommes arrivés ici en 2013, enfin on s'est installé vraiment en 2015. Et quand on est arrivé, il y avait, nous faisons partie du village, nous sommes un peu à l'écart. Et ce village est un vieux village et les habitants ont été déplacés. Ils ont été déplacés d'un kilomètre, ils ont été installés dans un nouveau village. Et donc ce vieux village est abandonné. Ils voulaient le démolir, donc je les ai convaincus qu'il était peut-être... opportun de le garder. Et donc, il est là. Il est quasiment vide maintenant. Il n'y a plus que les animaux que les paysans ont gardés là-bas, si vous voulez. Ouais. Et donc, je voudrais ramener dans ce vieux village la vie, utiliser un peu toutes mes ressources pour créer là un centre international de permaculture. C'est ce que j'ai fait avec Kabissa, mais Kabissa est petit. Hein. Moi, j'ai 2 hectares. Il faut que ça fasse tache d'huile, quoi. Et que la tache d'huile partirait à partir du centre qui est Kabissa, si vous voulez. Et donc, les négociations sont en cours, tout azimut, pour en arriver là. Je pense qu'on va y arriver, parce qu'il faut aussi que la Chine se projette dans le monde de la permaculture, qui est un grand mouvement qui prend beaucoup d'ampleur dans le monde. Et je pense que la Chine a une voie particulière à mener là-dedans. Et pour ça, faire venir des permaculturistes du monde ici et permettre aux gens qui s'intéressent à la permaculture d'être en rapport avec eux. Vous savez, si la Chine ne réussit pas la transition écologique, personne n'y arrivera. Hein.
Cela dit, Philippe Geluc a une petite idée pour une planète plus propre. Écoutez plutôt.
Si tout le monde courait avec des chaussures à clous, il y aurait moins de papier qui traîne dans les rues.
C'est simple, efficace.
Évidemment. Oui, et puis, c'est non polluant, ça.
Il suffit d'y penser.
Évidemment.
Oui, oui.
C'est si simple.
Anne Pollard est des nôtres. Anne, vous avez rencontré un autre dessinateur intéressé par la Chine.
Tout à fait, François Skuyten. Et lui, il nous emmène au début du XXe siècle. On va aller voir la grande ligne de chemin de fer que les Belges sont partis construire avec les Français en Chine. En fait, cette ligne de chemin de fer, elle servait à relier le nord et le sud de l'Empire du Milieu, donc entre Pékin et Hankou. Hankou qu'on connaît bien parce qu'aujourd'hui, c'est Wuhan qui est très présent aussi dans l'actualité en ce moment. Et ça peut paraître assez bizarre aujourd'hui, mais l'ingénierie belge sur le ferroviaire, à l'époque, c'était vraiment une référence.
C'est une aventure un peu exceptionnelle dans le sens où On n'aurait jamais pensé qu'on aurait vu la Belgique et surtout un Belge jouer un rôle de cette importance. On est quand même à la fin, là, en 1890-95, à un moment assez particulier de la Chine. Elle est quand même fragilisée, il y a beaucoup d'États autour qui la regardent avec appétit. Et c'est un pays qui ne s'est pas modernisé au même rythme que ses voisins. Et donc, c'est un moment très intéressant parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de faire un pas technologique. Et évidemment, le train, c'est l'outil pour changer, pour faire basculer l'économie, la façon de se déplacer dans un pays. Ils vont faire une espèce de recherche de partenaires qui soient les plus intéressants. Ils vont choisir la Belgique, la France aussi un petit peu, mais surtout la Belgique, parce que sans doute, ils sentent que c'est un pays moins dangereux que les autres, il faut être honnête, mais aussi par ses qualités de pionnier dans le domaine du ferroviaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant, c'est qu'on a un petit peu oublié, c'est qu'on était parmi les leaders dans ce domaine. On a une industrie ferroviaire très, très, très ambitieuse, très, très performante. Et donc, c'est ça aussi qui sans doute les convainc. C'est aussi, je pense, la dynamique de Léopold II, qui voit là une opportunité de faire grandir la notoriété de ses ingénieurs et de son industrie. Donc, il y a différents éléments qui vont participer à cette aventure. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est de se rendre compte de ce que peut représenter, comme ça, un Belge comme Jean Jadot, plongé dans cette Chine, qui était quand même un pays assez mystérieux à cette époque, assez complexe, et plongé au milieu de tout ça pendant 7 années, pour réaliser 1200 km de ligne. C'est vraiment l'épine dorsale de la Chine, traversant le fleuve jaune, enfin un pont qui fait plusieurs kilomètres pour traverser le fleuve jaune. C'est des paris incroyables, il y a plus de 1000 ouvrages d'art, c'est d'une ambition folle, et évidemment, il faut dire un prix humain sans doute considérable, mais c'est quand même une prouesse venant d'un pays comme la Belgique.
Françoise Kuyten, auteur de ce beau livre « Pékin, un coup », que vous avez dévoré, hein, Philippe Gueluc. Vous avez déjà dessiné à 80, pas 80, non, mais 80, mais 4 mains.
Non, non, quand c'est limité à 50, on dessine à 50. Écoutez, oui, ça serait trop triste de se faire flasher tous les deux. Non, alors oui, François est un de mes plus grands amis. Son exposition est magnifique. Ce qu'il a fait comme scénographie au Train World est monumental. C'est un très grand auteur, un immense dessinateur. Et on a fait, à chaque fois, quand on parle de lui, je pense à un exercice qu'on a fait il y a près de 30 ans, c'est un libraire à Liège qui nous avait demandé de faire une séance de dédicace à 4 mains. Et on avait commencé chacun un dessin sur une feuille, puis on faisait la moitié du dessin et on l'a passé à l'autre. Et on a fait comme ça 20 dessins à deux, mais on en a chacun commencé 10. Et vous me croirez ou non, si vous connaissez le style de Françoise Kuyten avec ses hachures, avec ses architectures, etc., on a commencé ensemble et on a terminé ensemble. Et moi, je dessine juste le chat, tac, tac, je le fais. Et il dessine avec un brio et une habileté qui me laisse stupéfait.
Son livre témoigne aussi des liens ancestraux entre l'empire du milieu et notre petit royaume, Patrick Nace. Il y a beaucoup de liens, finalement, entre les deux.
Oui, et cette ligne Hankou-Pékin, c'est un des grands classiques. C'était l'époque où la Belgique figurait parmi les plus grandes puissances industrielles au monde. C'est assez hallucinant de se rendre compte de ça, qu'un petit pays a pu prendre une place pareille dans l'économie mondiale. C'est à la fois admirable et révoltant et hallucinant, si vous voulez. Mais c'est comme ça. Et c'est une époque où la Belgique pesait bien plus lourd que son poids géographique.
Oui, enfin, sa tirelire se trouvait ni en Flandre ni
Exactement.
En Wallonie, mais dans un continent au sud, je pense que ça s'appelait le Congo, et qu'on avait une manne là
Exactement.
Qui semblait infinie. Ouais. C'est vrai qu'on a été, je crois, troisième puissance économique mondiale pendant quelques années.
Ouais. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons un pays qui fait 1,4 milliard, qui a été mis complètement à la marge et qui reprend sa place. Et donc, c'est une place qui, forcément, sera énorme. C'est logique, c'est naturel, c'est normal,
Oui.
c'est écrit dans la réalité. C'est très difficile pour l'Occident d'accepter ça.
Non, non. Mais moi, j'ai fait un petit calcul. Je ne sais pas si vous l'avez fait. En Belgique, nous avons 7 gouvernements. On est d'accord, hein, avec le fédéral, les régionaux, pour 11 millions d'habitants. Ça veut dire que si en Chine, ils adoptaient le même système que chez nous, ils auraient 6 000 gouvernements.
Allez, un autre amoureux de la Chine, en tout cas d'une China Girl, c'est David Bowie qu'on écoute tout de suite sur la première dans Les Belges du Bout du Monde.
Les Belges du Bout du Monde sur la première.
China Girl, c'était David Bowie sur la première dans le Yunnan où nous brunchons ce matin chez Patrick Neiss, ex-ambassadeur de Chine, reconverti en permaculteur avec sa China Girl, Mignane. Allez, parlez-nous d'elle, Patrick.
Bon, Mignane est une fleur de Yunnan. C'est une femme qui est naturelle, qui a l'intelligence du cœur, qui est vraiment l'incarnation féminine de sa province. Et donc, elle me tient sous ce charme-là. Elle connaît tout le monde ici. Donc,
ça vous a aidé pour votre ferme Gabissa, évidemment.
Bien sûr. Il y a entre nous une complémentarité qui est extraordinaire, je trouve.
Est-ce que c'est indiscret de vous demander comment vous vous êtes rencontrés?
Mignane avait un restaurant de Yunnan à Pékin. C'est comme ça qu'on s'est connus.
D'accord.
Et donc, voilà.
Et vous étiez un bon client, et puis, pas terrible, et de fil en aiguille,
voilà.
Allez, le voyage continue avec les mots du chat sur la première qui crapahute tous azimuts.
Si tu ne sais pas où tu vas, vas-y quand même. Et une fois sur place, tu demanderas où tu te trouves.
Mais vous savez que c'est horrible pour moi. Alors non, c'est pas horrible parce que j'ai fait ce livre et j'en suis fier et j'en suis heureux. Et tous ceux qui l'ont déjà parcouru me disent avec des larmes dans les yeux qu'ils ont ri. Mais je me rends compte que le dessin n'est pas du tout nécessaire pour cette sélection que j'ai faite.
C'est un peu vexant, quelque part.
Ben non, mais c'est moi. Je m'auto-flagelle, évidemment, puisque j'ai choisi les phrases du chat qui n'ont pas besoin de dessin pour faire un gag. Il y en a, heureusement, quelques milliers d'autres qui ne peuvent pas être détachés du personnage ou de la situation dans laquelle je le mets.
Oui, et vous pourrez faire un autre livre avec rien que les dessins sans les paroles, qui serait complémentaire.
Les dessins muets, voilà.
Voilà, exactement. Philippe Gueluc est avec nous pour une petite visite, on va dire, biannuelle dans cette émission. Ça nous fait toujours plaisir, Philippe. L'ambassadeur Patrick Neiss, il a beaucoup voyagé, des moments heureux, d'autres beaucoup moins drôles. Vous étiez à Kobe, je crois, en janvier 1995. Ça, c'est un événement qui a bouleversé votre vie, je crois.
Ah oui, tout à fait, oui. Donc c'était le 17 janvier, si j'ai bonne mémoire. On a été réveillés, là, comme s'il y avait un avion qui atterrissait dans le jardin. Et 45 secondes, et tout était cassé. Tout était cassé. Et alors on est sorti. On était pas loin de l'épicentre. Hein. On est sorti sur la terrasse. On avait une vue de Kobe, qui était une ville très, très lumineuse. Tout était noir. Il y avait alors le silence total, et puis on a entendu des cris, et puis on a vu des feux s'allumer partout. Et en 45 secondes, on était en plein chaos, on était de retour à l'âge de la pierre, si vous voulez. C'est terrible. Donc on a eu de la chance, nous, la maison a tenu bon, mais tout était cassé à l'intérieur, tout était cassé. Les bibliothèques étaient tombées... La cuisine, tout était sorti des armoires, cassé sur le sol. Enfin, c'est une expérience qui vous donne vraiment le sens de la valeur des choses, hein, et de la fragilité des choses aussi.
Ouais. J'imagine qu'avec ça, cette expérience-là, vous ne vous plaignez plus pour de petits bobos. C'est un parcours de résilience. Aujourd'hui, une relation très profonde avec les paysans de votre village. Vous fumez du tabac ensemble sur de courtes pipes en cuivre. Vous chantez. Qu'est-ce que vous chantez quand vous êtes avec les paysans du village, Patrick?
Mais je chante une chanson qu'on chantait dans les cheviotes avec les commandos. C'est « Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon ». ça les amuse beaucoup. Ils ne comprennent pas Mignonne non plus, d'ailleurs. Elle n'est pas blonde, vous imaginez.
Oui, c'est bien qu'elle ne comprenne pas en même temps. Très bien. Alors, je vais vous faire écouter une petite musique. Ça n'est pas auprès de ma blonde, je vous jure. Une autre musique. Et vous allez me dire ce que cette musique vous inspire, Patrick et Philippe, tous les deux. Bon, on va arrêter le massacre, hein. On a reconnu une
la Brabançonne,
un peu Destroy,
mais enregistrée pendant le tremblement de terre de Kobe. Voilà.
C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et c'est une façon de vous demander ce que ça évoque pour vous la Belgique, vous qui êtes là à des milliers de kilomètres, Patrick.
Mais pour moi, c'est un pays merveilleux. Je suis très heureux d'avoir représenté, je disais ça souvent quand j'étais ambassadeur, que j'étais heureux de représenter un pays qui n'était pas une nation. Et donc, c'est la grande richesse de cette Belgique qui est une mosaïque de culture. Mais le problème, c'est qu'elle ne l'assume pas quelque part. Au lieu d'en faire un ordre de grandeur, si vous voulez, on en fait une pomme de discorde. On inverse le fédéralisme. Le fédéralisme est fait pour unir et nous, on a inventé le fédéralisme pour désunir. Je ne veux pas me faire l'avocat de la Belgique de papa. Mais je trouve que c'est dommage que la Belgique n'arrive pas à assumer sa vraie diversité, si vous voulez. C'est dommage.
Mais vous avez raison. Mais moi, j'aime cette Belgique de papa, la Belgique de l'Expo 58. Je trouve qu'on aurait dû, à l'époque, je l'ai toujours regretté depuis mon enfance, qu'on n'ait pas simplement enseigné en flamand au wallon et en français au flamand pour parler les deux langues de façon naturelle. C'est tout de même bizarre que notre devise nationale soit « l'union fait la force », hein ? Et que c'est tout le contraire que nous mettons en pratique, la désunion. Et puis, je pense que rien n'est fichu, parce que je pense que des deux côtés, on n'a pas envie vraiment de se séparer, on est comme un vieux couple, et on s'aime bien, finalement.
Alors, témoin de cette richesse de la Belgique, Philippe, Anne Pollard, elle est lauréate de la Belg Odyssée, un concours de reportage dans lequel de jeunes flamands travaillaient avec de jeunes francophones, et elle a été la gagnante de la saison dernière. Bravo. Elle travaille aujourd'hui avec nous, et elle a sans doute une dernière question à poser à nos invités, Anne.
Oui, tout à fait. Donc, on a parlé de M. Neys, qui était ambassadeur de Belgique en Chine, mais vous aussi, Philippe Geluck, vous êtes quelque part en ambassadeur de la Belgique, un peu partout où le chat va miauler.
Alors, ah oui, c'est drôle que vous me disiez ça, parce qu'on me le dit souvent. On me dit, mais finalement, vous représentez la Belgique, etc. Alors, de façon totalement subliminale, parce que moi, je n'ai pas du tout le sentiment d'occuper ce genre de fonction, ni d'être quelqu'un qui ait ce genre de mission. Moi, je fais mon truc, mon boulot, mon bonheur, c'est de faire marrer les autres. Si je peux, à l'occasion, les faire réfléchir, tant mieux. Et puis, j'essaye d'élargir l'audience en montrant mon travail à qui veut venir le voir ou caresser les sculptures du chat. Mais en rien, je n'ai de mission officielle, mais le terme me va bien. Je fais voyager la Belgique à travers mon travail.
Oui, et j'avais donc deux ambassadeurs aujourd'hui, Patrick Neys en Chine et Philippe Geluck, ambassadeur de Reyers dans le monde. Vous ne voyagez pas, mais vos œuvres voyagent sur toute la planète. Il y a des chats dans tous les pays du monde, Philippe. Vos livres sont dans toutes les bibliothèques.
Oui, ça c'est un bonheur. Mais comme quoi, alors c'est très écologique comme façon de voyager. Mon empreinte carbone, elle est de zéro. Hein.
Bien sûr. C'est pas mal. Ça me permet d'enchaîner avec une toute dernière question sur vos projets écologiques là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire ce dimanche après-midi? Vous allez aller planter un arbre peut-être là-bas à Yunnan ou bien cueillir du blé, je ne sais pas, Patrick Neys?
Mais je vais récolter des pommes de terre et des arachides.
Ah ben voilà, un petit truc belge, pommes de terre avec des arachides du bout du monde l'empire du milieu. J'ai été très heureux de parler avec vous. Vous nous avez fait rêver, vous avez élargi tous les deux nos horizons. La semaine prochaine, nous serons à Lucca, chez l'artiste et designer Michel Bouquillon, en Toscane. C'est votre deuxième pays, ça fait
dire. Oui, j'adore l'Italie. Lucca, quelle merveilleuse ville. Saluez-la pour moi.
Oui. Allez, on s'offre un dernier grand écart entre la Chine et l'Italie en passant par l'histoire de la gastronomie.
Marco Polo a ramené les pâtes de Chine en 1295 et ce n'est qu'en 1519 que Cortés a rapporté les tomates du Mexique. Les Italiens ont donc dû bouffer leurs spaghettis sans sauce pendant 224 ans.
Et bravo à Paul Michel pour le montage avec cette femme qui supplie, qui pleure de toutes ses larmes à la fin. Merci beaucoup, Philippe, de nous avoir fait rire. Les mots du chat, hein, c'est le tout dernier.
Yes.
Chez Casterman, comme depuis le siècle dernier. En fait.
Depuis toujours. 1986, début de la collaboration. Et puis, il y a aussi la réédition du catalogue album Le chat déambule, qui relate toute l'aventure de l'exposition des sculptures et qui est un ouvrage très, très important pour moi.
Et qui arrive à Bruxelles avant d'aller en Chine, bien évidemment.
Oui, bien sûr.
Sur la muraille, moi, je verrais bien les sculptures du chat sur la muraille.
Est-ce qu'elle est assez solide pour recevoir des chats de 2,5 tonnes de bronze?
On va voir. On va mettre Patrick Ney sur le coup. Bon dimanche, Patrick. À bientôt.
Bon dimanche.
Dans un instant. Nous aussi.
À bientôt, Philippe. Continuez.
Au revoir. Et peut-être, puisque vous avez traîné du côté de Cours-Saint-Étienne et moi de Bouzeval, on se verra peut-être au Douer un de ces jours quand vous faites vos courses.
Dans un instant, Pastille Chaud de Nicolas Blanmont, juste après le journal de 10h.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Podcast.